je ne sais pas, qui l'honneur de la première question ?
Bon.
Ma question, c'est, on reproche souvent à l'économie solidaire et sociale, que ce soit une économie qui bouche un trou que laissé par l'économie libérale, et dès que ça va mieux, on va retourner à une économie du marché. Par exemple, en ce moment, en Grèce, on a vu ça avec le film « On ne veut plus être des esclaves », qu'il y a tout un tas de centres sociaux qui se montent, des amas, des échanges locaux, des monnaies locales, des cliniques solidaires où les gens soignent bénévolement des autres. Et dès que l'économie va marcher mieux, tout ça va être délaissé. Alors, est-ce que c'est un bouche-trou ou pas ?
Bouche-trou, je ne sais pas, le mot n'était pas très agréable à entendre, mais c'est vrai, enfin, c'est juste ce que tu dis, c'est que d'un côté, effectivement, quand l'économie va bien, l'économie libérale et lucrative s'empare de l'activité à partir du moment où elle rapporte de l'argent.
Elle est profitable.
Ce qui se passe, elle est profitable. Ce qui se passe en Grèce, là, je pense, dans ce secteur-là, c'est des secteurs où soit les gens n'ont plus les moyens de se payer des soins, tu as parlé de cliniques, des soins, etc. Donc, c'est la même chose en France. On crée souvent une association pour répondre à un besoin. C'est très bien. Sauf que le jour où cette activité devient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le jour où cette activité devient rentable, c'est pas l'économie sociale et solidaire qui abandonne, c'est l'économie lucrative qui vient et qui va récupérer le truc et qui a souvent les moyens de casser le marché, de mettre dehors l'économie sociale et solidaire, à la limite. C'est pas qu'il se retire, mais c'est le problème, c'est que on n'a pas trouvé, à ma connaissance, aujourd'hui, les moyens de faire que ce ne soit pas l'argent qui dirige. Et que la volonté humaine, malheureusement, elle est attirée par l'argent, tout ce que peut amener l'argent, et au détriment de l'échange solidaire entre les personnes.
Oui, mais il doit y avoir des statuts dans toutes ces associations.
Oui.
Bon, alors comment est-ce qu'on peut les détourner ? Tout à l'heure, vous donnez comme exemple le Crédit Agricole.
Ah oui, moi,
là, ça en sort par les yeux, quoi. Le Crédit Agricole comme modèle.
C'est plus une coopérative.
Le Crédit Agricole reste pour partie une coopérative, mais pour partie seulement. Le Crédit Agricole, effectivement, est devenu une très grosse entreprise et qui a des. Alors, je ne sais pas si c'est des filiales ou comment il faut l'appeler. Qui n'ont plus rien de coopératif. C'est pas le Crédit Agricole qui fait qui va à l'international. C'est pas le Crédit Agricole coopératif, la caisse locale, qui va à l'international. Et moi, je suis pas au Crédit Agricole, je veux pas bien parler, mais c'est des gens qui savent. Il y a sûrement des coopérateurs dans la salle. Au niveau de leur caisse locale, ils sont coopérateurs, ils ont le droit de vote à l'Assemblée générale. Ils l'exercent, ils ne l'exercent pas. Ça aussi. Le drame, on en parlait à l'instant en parlant d'Antecor. Antecor est une coopérative. Le drame d'Antecor, c'est que quelque part, il n'en a plus que le nom.
Oui.
Sauf qu'il en a les statuts. Et qu'il faudrait la volonté d'un certain nombre de coopérateurs d'Antecor pour dire stop, ça suffit, on veut que ça redevienne une coopérative. Mais pour vouloir cela, et c'est ce qu'on ajoutait quand on discutait, c'est qu'il faut... Les gens qui veulent, ils peuvent le faire, c'est tout à fait. Ils gagneront à tous les coups. Simplement, il y a intérêt qu'ils soient suffisamment solides pour ce groupe-là gérer la coopérative après. Si c'est juste pour casser la baraque, ils vont casser la baraque, mais il n'y aura plus d'Antecor. Donc ça n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Crédit Agricole, je pense que si tous les coopérateurs du Crédit Agricole Mutuel, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, se manifester, venez voter systématiquement aux assemblées générales, etc., ça changerait sûrement l'attitude du Crédit Agricole. Sûrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a développé énormément d'activités. C'est comme la coopérative agricole, comment j'appelle l'Acadoma, qui s'appelle l'Acadoma, maintenant qui s'appelle Unicor. Je pense qu'il y a une partie du groupe Unicor qui n'a plus rien de coopératif. La RAGT, à une époque, a été une coopérative. Elle a abandonné le statut coopératif, là, c'est clair. Mais d'autres ne l'ont pas abandonné, donc ils jouent un peu sur les deux tableaux. Mais je crois... Alors, on a tendance, c'est vrai, quand on discute d'économie sociale et solidaire, à dire, oui, un tel, il est plus dans les clous, un tel, il est plus dans les clous, etc. Moi, je pense que c'est pas ça qui doit être notre cheval de bataille. Si on veut se battre pour l'économie sociale et solidaire, il faut peut-être faire un peu de ménage chez nous, je ne dis pas le contraire, mais il faut surtout mettre en avant nos valeurs. Hein, nos valeurs, qui sont un homme, une voix, qui sont l'homme, la personne au centre, la qualité au service de la personne et non pas au service de l'argent, mais des valeurs essentielles. On représente que, j'ai dit, 8% du PIB. Si on commence à se bagarrer entre nous, c'est comme... quand j'étais dans l'entreprise, je suis retraité maintenant, mais je disais toujours, j'étais contre les bagarres syndicales, intersyndicales. Il y a déjà tellement peu de gens syndiqués que si on se fout sur la gueule entre syndiqués, il n'y en aura plus beaucoup à la fin. Donc, mais c'est un point de vue, vous pouvez... Ça n'engage que moi, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous donne mon point de vue. Mon point de vue, c'est que l'important, c'est qu'il y ait des syndiqués, qu'ils soient à EFO, à la CGT ou ailleurs, ça m'est égal. L'important, c'est qu'ils se battent en tant que représentants des salariés, des collègues autour d'eux. Après, ils peuvent avoir des approches différentes, etc. Mais il n'y a déjà que combien 10% des salariés qui sont syndiqués. Alors, ne nous battons pas contre nos collègues syndiqués, battons-nous pour qu'il y ait plus de syndiqués. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est pareil. Battons-nous pour soutenir les entreprises du secteur qui ont du mal à s'en sortir, hein, parce que le secteur associatif est un secteur qui est quand même fragile. Au niveau financier, souvent, il n'y a pas des ressources extraordinaires. Donc il faut se bagarrer tous les jours pour que ça fonctionne. Donc ne tirons pas sur l'ambulance. Hein. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein.
Oui, oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un bouche-trou. Hein. L'économie sociale et solidaire, elle est dans l'économie. Hein. Alors, on les oppose souvent, l'économie libérale, l'économie sociale et solidaire, mais elle est dans l'économie. 54 milliards de salaires distribués, 2 200 000 emplois, c'est pas une paille. Et à mon avis, elle ne progressera, et elle n'a progressé depuis pratiquement 10 ans, que parce qu'il y a eu du financement solidaire qui a été investi dans des micro-entreprises et qu'on a aidé ces entreprises-là à vivre, à se développer, alors que les banques n'étaient pas prêtes à les financer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a 2 200 000 emplois, je ne sais pas combien d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles ne progresseront, et en dehors du cadre coopératif, ce n'est pas seulement des coopératives. Comme le disait Pierre, il y a des SARL qui se développent, il y a des SIC, il y a des SCOP. Bon, ça ne se développera que s'il y a des moyens financiers, et c'est là où l'argent n'est pas sale. L'argent, il peut être très bien utilisé, et c'est le cas lorsque l'on a un financement solidaire qui vient souvent faire un effet de levier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le porteur de projet a de l'argent qui vient de différents organismes qui soutiennent l'économie solidaire, à ce moment-là, les banques normales, entre guillemets, ou dans le système libéral, acceptent de mettre de l'argent au pot. Mais s'il n'y a pas ça au départ, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et elle progressera au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui seront de l'économie sociale et solidaire.
Oui.
Il y a deux points là. Un, c'était juste au départ, quand tu as parlé de la révolution de Chapelier.
Oui.
En disant que c'était effectivement une loi presque un peu liberticide en disant qu'il y a un rejet d'association.
Ah, ouais.
L'origine de la loi, c'était quand même de lutter contre toutes les corporations qu'il y avait avant. C'est-à-dire, suite à la Révolution, il y avait beaucoup de corporations et on voulait éviter à ce qu'effectivement ces corporations se remettent en place et aient trop de pouvoir. Donc l'idée au départ, c'était quand même celle-là. Donc, après, il y a des dérives, mais enfin, quand même, je sais plus un peu pourquoi on voulait interdire effectivement à recréer ces ordres qu'il y avait avant et ces corporations.
Oui, mais c'est vrai, oui.
C'est quand même là-dessus, et d'ailleurs, si les syndicats sont créés après en France, et la structure des syndicats en France est telle que ce soit plus de syndicats, pas de syndicats corporatistes, entre guillemets, je crois que j'ai métal en Allemagne qui défend un secteur, on a des syndicats beaucoup plus généralistes en France, puisqu'effectivement, on voulait lutter contre la mise en place de corporations. Le compagnonnage, c'est quand même une corporation.
Oui.
C'est quand même l'idée qu'il y avait.
Avec ce prétexte, on avait supprimé toutes les libertés de réunion, etc.
Mais il y a une chose, mais voilà, c'était quand même resitué pourquoi elle avait dit qu'on ne voulait pas. Et autre point que je voulais aborder, c'était concernant donc l'économie sociale et solidaire, entre autres, en particulier, pas la coopérative, mais le secteur associatif, souvent qui est sur de l'aide à la personne, aux personnes âgées, etc. Il y a quand même des choses qui me gênent là-dedans, c'est que souvent, c'est le personnel qui travaille là-dedans, et pas forcément toujours traité dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on, sous prétexte qu'on fait de l'aide à la personne, que c'est géré par une association, il y a souvent des conditions de travail, des exigences au niveau du personnel, qui ne me paraissent pas être tout le temps, effectivement, à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. On exige une qualité de service, mais on ne traite pas forcément le personnel.
C'est bien, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le statut ne fait pas la vertu. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est forcément exemplaire en tout point. On le reste forcément au niveau économique parce qu'on ne peut pas faire de bénéfices et les partager, mais après, effectivement, dans la gestion du personnel, qui est un aspect important, ça je suis bien d'accord, de l'économie sociale et solidaire, il peut y avoir du travail à faire.
Pays syndical.
Oui.
J'ai une question, c'est différent, mais j'aimerais comprendre. Tu dis un homme, une voix, enfin un vote. Je me pose des questions par rapport à l'enseignement privé. Tu as dit, si j'ai bien compris, que c'était aussi une association de solidaire. J'imagine François Destin. Bon, j'étais jeune du bac ce matin, j'ai pas eu l'impression que c'était un homme, un vote, une voix, enfin qu'ils étaient tous égaux. Je me dis, mais quand même, les profs sont payés par l'État. Est-ce que si moi, demain, je vais faire une école, l'État va me donner de l'argent? Enfin, pourquoi, en quoi ils sont solidaires? En quoi ils sont une association? Ils ont tous la truc du directeur. Je ne sais pas, il y a une confusion, je ne vois pas bien.
Alors, c'est vrai, une homme, une voix, c'est certain. Simplement, ce n'est pas tous les parents d'élèves qui sont forcément membres de l'association. Il y a un conseil d'administration, il y a des gens, des adhérents de l'association, il y a ce qu'on appelle l'OGEC qui va gérer les murs, enfin, je ne connais pas bien les détails, mais je sais. Mais c'est un statut associatif à la base. Après, effectivement, ils gèrent, quelque part, j'allais dire, ils ont une mission de service public à travers l'argent qui est donné par l'État. Et il faut bien voir que souvent l'État ne se donne pas. Les moyens, il les a, mais n'a pas la volonté de gérer en direct des missions de l'État. Ces missions à lui, l'État. Donc il les délègue. Il les sous-traite, il les délègue à des services privés. Alors là,
qu'est-ce qu'il fait ? Si nous, on veut faire une école demain, alors on demande de l'argent à l'État, on se paye une
salaire. Je ne pense pas que ce soit aussi simple quand même.
C'est pour ça qu'il y a un projet d'une école de Montessori.
Oui.
J'ai vu ça sur le journal aujourd'hui.
Ça peut exister.
Oui, non, mais ça peut se créer.
C'est une association de parents d'élèves qui se
montent en association. C'est comme une chose à gérer, mais là, personne ne touche un salaire, c'est du volontariat.
Montessori, si, je pense que c'est des... Il doit y avoir une...
C'est le contrat, il y a un contrat qui est passé avec l'État.
C'est bien ce qui s'est passé à l'école de Canaré, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être plusieurs dizaines d'années, mais récemment... Il s'est monté une école privée sous contrat. Oui. Alors, au début, il n'y avait pas de contrat. Quand il y a eu des élèves, ils ont demandé. Et les calendrettes, c'est bien aussi la même chose.
Je ne sais pas où ils en sont.
Mais ce sont des établissements privés où on enseigne l'occitan.
Ce n'est pas du tout
confessionnel. Et souvent, certaines conditions. Ils ont obtenu donc
un contrat avec l'État.
Oui.
Oui, mais parce
l'État estime qu'ils remplissent un service public. Alors, on est d'accord sur la nature du service public ou pas, mais ça arrive souvent que l'État délègue du privé. C'est pas...
Et les calamrettes, c'est pas celui comme ça.
Hein. Non, je sais pas.
On parle de l'État qui délègue éventuellement au privé, mais enfin au service associatif. Mais tout à l'heure, on a dit qu'il était possible aussi qu'il y ait une récupération, dès lors que ça devient rentable, par des banques ou d'autres services comme ça. Et je crois que la notion de risque pour les associations est quand même quelque chose d'énorme, que les banques ne veulent pas prendre, justement. Et je me demande dans quelle mesure, en prenant ces risques-là, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pas effectivement une espèce de bouche-trou pour le moment, et pour permettre ensuite aux banques de récupérer la fonctionnalité d'entreprise. Quoi.
Oui, là, je ne sais pas trop répondre. Moi, je pense, par exemple, au secteur...
Le secteur bancaire, par exemple.
Non, mais je pense aux maisons de retraite. Les maisons de retraite.
Le secteur bancaire, par exemple, on prend la MAIF.
Oui.
Maintenant, c'est un groupe.
Oui, ça reste du...
Non, mais c'est un groupe. Ça veut dire que c'est ouvert. C'est pas seulement... associatif, tel que ça avait été défini au début.
D'accord.
Ce groupe est en train, enfin, à mon avis, de glisser.
Oui, mais ça,
c'est pas. Il glisse comme a glissé le Crédit Agricole.
C'est ce qu'on disait, voilà, c'est ce qu'on disait. Mais, pas tout à l'heure, mais ça.
On a la nef qui est en train de se monter. Bon, quelles sont les limites par rapport au secteur bancaire réel, quoi? Quels sont ses profits? Quelles sont ses pertes? Quels sont ses. C'est moyen d'action. Voilà,
c'est moi, je dirais que c'est quand même les coopérateurs du départ qui ont laissé faire. Si les coopérateurs du Crédit Agricole, au départ, avaient voulu garder leur statut de coopérative et investir là où ils étaient, le Crédit Agricole en serait resté là. Le problème, c'est que l'argent appelle l'argent et que c'est un cercle vicieux, là, pour le coup, et qui fait que l'argent est plus fort que l'homme. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais...
Oui, mais les administrateurs de la MAIF, c'est pareil. Hein. Si on veut être administrateur de la MAIF, il faut être dans le cercle des gens qui sont
oui, mais j'imagine
corruptés, disons. Et puis à ce moment-là, on peut être élu. Mais oui, si on se présente...
S'ils sont corruptés, ça veut dire que ça ne fonctionne déjà plus. Mm-hmm. Oui. Parce que normalement, tous les sociétaires d'une mutuelle ont droit de vote. Tous. Ouais.
Oui, mais bon.
Donc, soit ils ne votent plus depuis longtemps,
non,
c'est possible.
C'est plus pareil. Je veux dire qu'il y a une déviation. Il y a une déviation du système.
Voilà.
Déviance. Pas une déviation, mais déviance.
Déviance, oui. Voilà. Et oui, mais ça va.
Moi, j'ai le sentiment que la déviance, elle vient du fait que la structure grossit. Plus la structure grossit, plus le pouvoir de décision échappe à la base. C'est tout le problème actuellement. Vous avez des coopératives en France.
Comment régler ça? Si c'est un problème, moi je suis à peu près d'accord avec ça, mais comment on le règle, ce problème?
Ah, mais c'est ce que dit Pierre.
Parce que c'est un problème.
Non, mais c'est qu'à la base, malheureusement, dans les réunions de coopératives, les réunions locales, d'une part, l'information ne circule pas forcément comme il faut, parce que ceux qui ont le pouvoir... Ils peuvent donner ce qu'ils
donnent. On arrive au pouvoir.
Mais non, mais.
Et c'est le pouvoir qui est effectivement le moteur de toute cette.
Mais c'est vrai.
Et voilà.
Et vous prenez le Crédit Agricole, je pense qu'au départ, ça a été une structure qui effectivement était au service des agriculteurs, a fait du financement. Au fur et à mesure que ça a grossi, ils ont été confrontés au fait qu'il fallait réassurer l'argent qu'ils avaient, donc ils se sont réassurés auprès d'autres banques. Ils ont été ensuite à l'international, et puis vous avez une déviance qui est monumentale. Et vous avez dans certaines coopératives, le président, il est président, mais c'est pas lui qui dirige. C'est le directeur, et puis c'est trois ou quatre cadres qui font fonctionner l'entreprise et qui peuvent raconter ce qu'ils veulent au président. Les présidents qui sont aujourd'hui capables, dans des coopératives, d'avoir une vision économique et de gestion, ils sont très rares. Ils sont très rares. Il y en a, mais ils sont très rares.
Du fait de la taille.
Du fait de la taille, ça devient impensable.
En dehors de la taille, je vais prendre un autre exemple qui était une coopérative industrielle, ou qui est une ancienne coopérative qui est des voisins d'ici, qui est la rue Béa d'Albille,
ouais.
Qui a été coopérative pendant longtemps, et qui arrive un moment quand il y a eu des investissements à faire trop importants, la coopérative ne trouvait pas ça, et donc elle a été rachetée par une entreprise privée.
Voilà.
Et c'est pas la taille. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un coût d'investissement qui ne permettait pas à la coopérative, effectivement, de les réaliser.
A contrario de ton exemple, je citerai un certain nombre de scopes qui rachètent, leur entreprise fait faillite, et c'est en passant sous le statut de SCOP que les ouvriers, les salariés de l'entreprise rachètent et permettent à l'entreprise de continuer à vivre. Il y en a un certain nombre d'exemples.
Oui, mais pas facilement. Pas facilement, parce que on a l'exemple de l'entreprise, là, comment elle s'appelle, le Jabi ou je sais pas quoi, qui a été racheté par les
salariés.
Ils ont beaucoup de mal à vivre.
Moi, j'en prends une.
Ils font appel régulièrement à des.
Tout le monde la connaît. Montant au-dessus de Farou, l'entreprise Bache a été une entreprise familiale pendant des années. Elle a déposé le bilan il y a maintenant 20 ans, peut-être ou plus, je ne sais plus, le temps passe. Et c'est une SCOP depuis et elle marche. Et elle existe toujours. C'est les salariés qui l'ont reprise, qui la font vivre.
L'épicerie
en gros.
C'est un secteur qui a vachement souffert, ça.
Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais c'est bon.
N'empêche que en gros, elle a été tuée par les centrales d'achat. C'est comme ça que ça a été tué.
Oui.
C'est sûr que le secteur normal de l'économie n'a pas trop intérêt de laisser monter ce côté d'entreprise. Qui fonctionne autrement.
Oui.
On a vu que Marina Neda, qui sont bien établis dans leur village, maintenant, ils subissent une certaine criminalisation de part des autorités. On cherche à détruire le maire de Marina Neda. On peut pas le tuer économiquement, parce que ça marche trop bien, mais on trouve autre moyen.
C'est vécu comme
dangereux. Sinon, ça reste dans le marge de 10 à 20%, ça peut aller. Dès que ça prendrait plus d'ampleur, l'opposition deviendrait plus farouche. C'est sûr et certain.
Oui. Honnêtement, je ne dirais pas que l'économie sociale et solidaire va prendre le pas sur l'autre. Comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire fait partie substantiellement de l'économie en général, mais c'est clair que l'économie capitaliste et comme elle est lucrative continuera sans doute longtemps, je pense, à être très très largement majoritaire. Donc mais il n'empêche qu'il faut continuer à se bagarrer pour que ça se développe et que ça existe. Je veux dire, ça.
Moi, je voudrais ajouter une chose. Je pense que dans l'économie classique, des porteurs de projets qui démarrent et qui réussissent, c'est parce qu'ils créent une entreprise qui est extrêmement profitable. C'est les start-up. Vous avez n'importe quel porteur de projet sur une start-up, il va voir les banques. Les banques analysent dans quel secteur il va se développer et ils ont l'argent comme ils veulent. Nous, on connaît des entreprises locales par des porteurs de projets qui veulent développer des activités. On peut vous en citer. Elles ont pu démarrer parce qu'on a apporté du financement. Et qu'on a apporté un financement solidaire avec des exigences. Quand on apporte ce financement, on a des exigences sur la gouvernance, la répartition des bénéfices s'il y en a, sur le nombre de créations d'emplois, et ainsi de suite. Là, je vous parle d'initiative pour une économie solidaire. C'est une, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est en fait une coopérative de capital risque qui fonctionne sur tout Midi-Pyrénées, sur les 8 départements de Midi-Pyrénées, et qui collecte de l'argent à raison de 76 euros par part sociale. Mais vous pouvez prendre 20 parts sociales à l'intérieur de la SIC, vous n'aurez toujours qu'une voix. Et cet argent collecté, on le réinvestit actuellement dans des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous demandent si on accepte de financer leurs projets. Alors on étudie les projets parce que, comme on le dit, on est capital risque. On veut que ça marche. Bon, ça arrive qu'on soutienne des entreprises qui, au bout de 3 ans, mettent la clé sous la porte. On s'est trompé quand on a analysé le projet. Mais il faut savoir que c'est des entreprises qui démarrent parce que Initiative pour une économie solidaire apporte du capital, apporte un compte courant d'associés remboursable sur 5 ans, et surtout, on accompagne ces entreprises-là. Pendant 5 ans, on a des réunions tous les trimestres avec les porteurs de projets pour voir si comment ça marche. On n'est pas là pour diriger l'entreprise, on est là pour allumer des clignotants quand, sur le plan de la gestion et de l'économie, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont en train de cafouiller ou qui ne vont pas. Et si ça marche au bout de 5 ans, ils remboursent le capital, ils remboursent le compte courant d'associés, et cet argent-là est réinvesti dans d'autres entreprises. On est aujourd'hui 800 coopérateurs, et IES a collecté depuis 98, création, a collecté 1 200 000 euros. Et ce 1 200 000 euros travaille actuellement dans 44 entreprises et on soutient actuellement 700 emplois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez adhérer à IES et même en prenant qu'une part, 76 euros, vous devenez coopérateur. Et c'est intéressant parce que vous savez que l'argent, il est investi localement. Hein ? On ne le met pas n'importe où, il est local. Alors, il y a un groupe aveyronnais qui regroupe actuellement 40 coopérateurs.
Le crédit coopératif aussi.
Pardon ?
Le crédit coopératif.
Oui, le crédit coopératif. Je voulais savoir, tu as parlé d'une loi qui était en discussion sur l'économie sociale et solidaire.
Oui.
Quel était l'objectif de cette loi ? Pourquoi faire une loi ? Et quelle est la
finalité de la loi ? Je pense justement de reprendre en compte le fait que, comme je disais, le statut ne fait pas la vertu, ça je ne suis pas le seul à le dire, et que d'autre part, le secteur privé peut être lui aussi vertueux s'il veut bien s'en donner la peine. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au final, puisque la loi n'est pas définitivement votée, mais je pense que c'était une loi qui devrait sécuriser un petit peu plus, permettre des plans pluriannuels, des choses comme ça, plus, donc sécuriser un petit peu le secteur, un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça va donner avec le traité transatlantique, cette histoire ? Parce que sécuriser quoi alors, au niveau de la France quoi.
Non, quand je dis sécuriser, c'est sécuriser quand il y a des aides. Quand l'État délègue, c'est pas le traité transatlantique qui enlèvera le fait que l'État délègue.
Si, parce qu'il n'aura pas la possibilité de légiférer, puisque quand il y aura conflit entre des intérêts économiques entre entreprises de part et d'autre, ce sera géré uniquement par des législateurs privés.
Là, on ne parle pas d'une activité commerciale.
C'est important quand même.
Oui, non, mais
pourquoi on met des structures en place, c'est que dans quelques temps, elles ne vont pas pouvoir fonctionner. Quoi. C'est ça le problème.
Ce qui fait un peu peur, qu'on comprend pas bien, mais qu'on comprend bien en même temps, le côté, c'est que d'un côté, on pourrait avoir un gouvernement qui propose une loi pour sécuriser, pour dire des choses très bien, très nobles, et on a les mêmes décideurs, on appelle ça un gouvernement, mais c'est pas eux entièrement qui décident, une autre type de loi qui est ce traité, ou cette envie de traité transatlantique, et d'autres choses aussi. Il n'y a pas tous les jours, des gens réfléchissent au niveau de nos décideurs pour influencer plus vers telle ou telle décision. Quand on a créé le statut d'auto-entrepreneur, on ne s'est pas occupé de créer un statut de scope plus favorable au scope. On a dit, tous les salariés, vous allez vite vous partir de votre société et monter votre propre société, qui n'était pas du tout sociale, solidaire, fraternelle, égalitaire. Dépêchez-vous d'ouvrir vos trucs pour que vos anciens patrons puissent vous embaucher en tant qu'auto-entrepreneur dans la mécanique, dans le bâtiment, tout comme ça. Donc, ces statuts sont en même temps créés par des autorités, et en même temps, on crée des choses qui pourraient aller vers un mieux-être de la société en général. On va reprendre des termes fraternels, solidaires. C'est pas contradictoire. Sûrement que ceux qui décident, ils ont 3-4 esprits très, très ambivalents, et ils peuvent aussi bien proposer le meilleur comme le pire.
un traité transatlantique et une bonne loi, si elle, donc elle serait bonne. C'est gênant. C'est gênant quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas les parts sociales, comme disait Jean-Pierre, là, et qu'on n'est pas vraiment plongé dans la chose, qu'on n'est pas partie prenante à fond.
Oui, mais enfin, je ne vois pas en quoi... Je n'ai pas étudié de près, mais en quoi le traité transatlantique va impacter le service à la personne, par exemple.
Tout à l'heure, vous avez dit que beaucoup de, sur Toulouse en particulier, c'est l'exemple que vous avez pris, il y a beaucoup de services à la personne qui étaient repris par des entreprises privées.
Oui.
D'accord ?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, dans la mesure où, effectivement, ça devient, ça rentre dans l'économie de marché, il y a des propositions qui seront faites au niveau du département de l'Aveyron, peut-être, pour que des entreprises privées reprennent le fonctionnement de...
D'accord. Oui.
C'est ça que je veux dire. Oui. Je veux dire que, et à ce moment-là, la concurrence, il n'y aura pas photo, quoi. Hein. C'est ça le problème.
Il faudra qu'il y ait une concurrence. Et pour qu'il y ait concurrence, il ne faut pas donner la prédominance à une économie sociale. Une entreprise faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Si quelqu'un peut donner cette préférence ou laisser l'état de fait, admettons dans l'Aveyron, les ADMR qui bossent, si l'entreprise américaine Tintin arrive et dit « Mais non, moi je le veux pour 10 francs de moins, sur tout le département de l'Aveyron, l'économie sociale et solidaire, ça baisse et dit ben, « C'est la loi du marché. » On parlait de marché.
D'accord.
Tout à l'heure. Ce mot de marché n'est pas mauvais non plus.
Non.
Le marché, c'est l'échange entre les gens. Quand ça devient être une chose plus sociale, solidaire, fraternelle, équitable, éthique, ça commence à nous peser un petit peu, certains d'entre nous, sur le crâne, de voir que deux choses peuvent être faites en même temps, dans le même secteur, c'est-à-dire l'économie, pour deux choses totalement à l'opposé. Et quand on parlait de bouche-trou, c'est un peu ça que ça veut dire, c'est qu'on a l'impression qu'on va vous donner ça, et vous vous taisez, vous prenez 10-15% de part de marché d'économie sociale et solidaire, on vous le laisse, grossissez même, pourquoi pas, prenez une autre part, réfléchissez, et c'est très bien, on est très content, en plus on est là, on est content d'être là. Et en même temps, on dit, mais de l'autre côté, les requins vont arriver, et dans tous les cas, ils vous mangeront si on décide qu'ils vous mangent. Et c'est la même structuration qui nous dit ça, c'est-à-dire les décideurs. Et c'est, pour pouvoir entrer de plein pied dans l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il faut que la plupart d'entre nous et d'autres, ça soit l'état d'esprit. Qu'on soit plus dans l'état d'esprit marchand, marchandisé, qu'on soit pas nous-mêmes une marchandise. Il faut déjà se lever le matin en disant, le matin, je suis pas la marchandise que quelqu'un a décidé que je pourrais être en étant salarié, en étant entrepreneur, en étant retraité, en étant tout ce qu'on voudra. Donc, faut qu'on se lève du bon pied.
Pas tous les jours.
Si on ne s'abaisse pas devant la proposition de Tintin fait procès.
Oui, voilà, c'est ça aussi.
Et fait procès qui n'est pas réglé juridiquement avec la juridiction du pays en question.
Réglé par les entrepreneurs.
Voilà.
C'est
bien ça le problème. C'est que on déplace complètement la légalité.
Lire le dernier numéro du Monde Diplo, il y a un dossier qui explique que c'est limpide. Vous comprenez.
Ce qui n'empêche pas qu'on doit se réfléchir à cette économie sociale et solidaire. C'est peut-être vers celle-là qu'on aimerait aller.
Moi, j'ai peur que quand tu vois le rouleau compresseur Tafta qui arrive, qui se peut qu'il arrive, si on n'arrive pas à bloquer.
C'est vrai que quand on parle de rouleau compresseur, moi j'abonde totalement dans ce que tu disais, dans la mesure où ce sont les mêmes dirigeants. Notre gouvernement et notre président qui fait partie du Conseil de l'Europe, donc, puisqu'il est président de la République française, il a bien laissé à un commissaire européen le soin de négocier avec des ordres, bien sûr. Négocier. Et c'est ce négociateur-là qui, à l'heure actuelle, ne renvoie pas les informations, ou du moins fait en sorte que les informations qu'il renvoie soient toujours tronquées. Et donc, le peuple qui a élu le président de la République et celui-là nommé le Premier ministre dans le cadre d'une assemblée qui a une majorité, eh bien, ce peuple-là n'a plus la maîtrise puisqu'il n'a plus l'information. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, le négociateur s'arrange, et que le chef de l'État, qui a normalement pouvoir sur ce négociateur, puisque c'est lui qui lui a donné ce pouvoir, ne s'en serve pas de ce pouvoir. qu'ils voient des équilibres que nous ne sommes pas à même de voir, nous, parce qu'on n'a pas l'information. Donc, comment faire confiance quand on nous cache l'information? Et c'est ça qui est très difficile à l'heure actuelle avec TAFTA, et c'est une des premières fois où ça apparaît le plus clairement possible. Mmh. Il y a une volonté de la part des États-Unis et de certains groupes européens, groupes de politique européens, d'arriver à un accord, mais on a l'impression qu'ils le font sur notre dos. Mmh. Et donc,
Ce qui ne pouvait pas passer par l'OMC, maintenant, ils le font à travers le TAFTA, et c'est pour ça qu'ils le font cacher.
Voilà, mais bon, on n'est pas au bout. Il y a encore la voix populaire qui peut aller dans la rue sur ce sujet-là, mais ça a de la difficulté à progresser, parce qu'on n'a pas les moyens médias nationaux pour arriver à... comme il y avait eu au moment du référendum c'était 2005, au moment du référendum, là, il y avait les médias nationaux obligatoirement, puisque c'était une élection. Hein, donc, il fallait bien que les informations passent. Et on a vu ce que ça a donné, le désastre pour les décideurs. Et ces décideurs-là sont tous allés à Versailles, ensuite, pour modifier la Constitution sans qu'on leur donne le mandat. Enfin, si, on les avait élus, bien sûr. Mais, voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre. Et quand on est militant économie sociale et solidaire, le risque, c'est qu'effectivement, face au marché lucratif, qu'il y ait effectivement tromperie maximum et que si jamais le marché lucratif trouve que ce système-là n'est pas bien, lutte contre lui, ben, hop, tribunal arbitral, tribunal privé. Les lois du pays ne rentreront pas dans ce tribunal-là. Voilà. Alors, c'est ce en quoi on a trouvé plus d'une fois jeudi en question que c'était important de faire l'information sur le TAFTA. Il y a un groupe avéronné d'information sur le TAFTA, mais il a de la difficulté à percer, comme tous les groupes d'information en France, parce que les médias nationaux occultent. Allez, complètement. On doit trouver à minuit une ou deux émissions de temps en temps. Mais voilà. Quoi, c'est tout. Et il y a le monde diplomatique. Le monde diplomatique. Mais bon, on y est abonné.
Quand même, pour retenir une note d'espoir, quand même, les décideurs, d'après mon diplôme, je disent qu'ils sont quand même très surpris que ce ne soit pas encore fait et que ça provoque de telles réactions et que ça bloque pas mal. Ah, quand même, il commence à sentir que non.
Oui, et puis même du côté américain,
il y a des États
qui bloquent le TAFTA. Hein.
Oui.
Donc, parce qu'ils ont une structure politique.
C'est peut-être là que le lien avec les entrepreneurs, entre guillemets, de l'économie sociale et solidaire n'est pas fait. Je ne suis pas sûr que quand on parle de TAFTA entre nous à des réunions, Julien Question ou autre, on est beaucoup de gens de l'économie sociale et solidaire en tant que... entrepreneurs, SCOP, qui viennent nous voir, qui disent, là, vous parlez de choses qui ne nous intéressent pas, mais qui devraient nous intéresser, parce que, d'après ce que vous dites, ça pourrait remettre en question notre activité en tant qu'activité sociale et solidaire. Et j'ai plein de copains qui sont acteurs sociaux et solidaires, avec mon SCOP, et j'en ai jamais vu aucun poser une question ou venir vers moi. Et vers moi ou vers d'autres. Bah, j'ai pas dit, mais non. La question, c'est ces gens de l'économie sociale, ces gens, ces entreprises, on ne les voit pas. Elles sont presque invisibles. Tu nous parlais tout à l'heure, je veux dire que par exemple, Kessiol pouvait se targuer d'être de l'économie sociale et solidaire. C'est pas les dirigeants de Kessiol que je voudrais voir discuter avec nous. Mais pourquoi pas voir des dirigeants dire, mais là, est-ce que ça remet en cause ce traité ou autre chose? Venir parler. On a l'impression que qui franchissent un pas les gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire pour prendre des intérêts ou des pouvoirs, entre guillemets pouvoirs, ils redescendent pas des informations, ils sont pas en lien avec le, je considère le peuple, mais pas au bon sens du terme, le citoyen. Tu parlais combien tu pourrais dire qu'il y a d'entreprises sociales et solidaires dans l'Aveyron, je crois que tu as dit un chiffre. Un peu tout à l'heure.
J'ai 215 000 en France, dans l'Aveyron, je sais plus, je l'ai.
Non, je ne l'ai pas enregistré.
Les ADMR, tout ça, quand tu parlais de ça,
ah oui,
ça
oui.
font partie. Il y a un paquet d'emplois dans l'Aveyron.
Tout à fait. 16% de l'emploi salarié.
Dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron.
National ou sur le président. Non, l'Aveyron, c'est pas rien quand même. C'est...
Non, c'est pas rien.
Même s'il est parfois mis à mal. Hein. Daniel Mazel disait que ça pouvait être des tout emplois qui mériteraient mieux que ce qu'ils n'ont. Mais bon. Oui. Et que ça soit eux, ces employés, ou leurs responsables hiérarchiques, s'il y en a, ils en ont. Je vais à l'USMA.
Oui.
J'ai du mal. J'ai pas du mal à y aller. Mais j'ai du mal à faire sortir quelqu'un d'USMA à venir parler avec moi. C'est quoi? C'est qui? C'est comment? C'est... Parce que quand tu dis les porteurs de projets, il suffit, entre guillemets, il suffit de mettre 76 euros. Et je pense qu'on devrait tous le faire, évidemment. Et c'est là où il faudrait qu'on soit plus nombreux à discuter de tout ça. Aujourd'hui, en question ou ailleurs, et qu'on se frite, entre guillemets, sur tafta, pas tafta, gouvernement, pas gouvernement, démocratie, liberté, égalité, fraternité. Ça manque peut-être un petit peu à la création. En 1900, 1800, les syndicats, les caisses de mutualité sont nées, tu le disais tout à l'heure, pour pouvoir que le gosse qui a été malade ait à bouffer et que quand on parlait de mari ou la femme, il y ait quelque chose qui retourne à l'un ou à l'autre dans le cas de l'aide, de l'entraide. Ça s'appelle des entraides d'ailleurs, ça va comme ça, je crois. Bon, ça fait qu'on en parle plus, même de cette loi. Cette loi qui serait en discussion.
C'est vrai qu'on en parle peu, ça je suis là. Ouais.
Est-ce 12 ou 16% de l'économie, 20% du PIB, tout ça, on n'en parle pas. Ça gêne qui? Ça gêne quoi? Et pourquoi les porteurs eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes, on ne les voit pas, ils n'arrivent pas? Ou peut-être qu'on les voit d'ailleurs.
Je pense qu'ils en parlent, il y a plein de sites où on en parle. Est-ce que. Quelle répercussion ça a? Ça, je ne sais pas du tout. Parce que c'est vrai que d'une manière générale, l'économie sociale et solidaire. N'a pas su se vendre pour le coup, se faire reconnaître pour sa valeur. Alors là, moi, je ne sais pas bien, là, honnêtement, je ne sais pas faire le lien avec l'histoire des traités. Ça, parce qu'il me semble que c'est quand même des activités, je ne vois pas bien les Américains venir faire la concurrence, mais bon, pourquoi pas. Effectivement, il peut y avoir des secteurs qui sont intéressants pour eux.
Ne serait-ce que l'agriculture, ça va aller vite.
Hein. Je crois que c'est Veolia qui a un pied dans le domaine de l'ADMR.
Du service à la personne.
Du service à la personne, et même au niveau aveyronnais. Nous en avons entendu parler. Donc ça veut bien dire que là, Veolia, les Américains seront contents. Enfin, ils pourront dire à Veolia, non mais attends... je peux faire ça moi aussi.
De toute façon, c'est un marché en croissance où il y a des besoins. Donc,
pas tellement. C'est un objectif, pas tellement.
Mais ça ne va pas être des Américaines qui vont venir.
Non, c'est pas ça.
Les fonds de pension, pourquoi ils sont trop moches, ils peuvent arriver partout.
Gégé, dans tes sites internet, que tu disais tout à l'heure, les sites que tu as pu répertorier.
Alors, le seul endroit où on parle effectivement de cette loi, c'est sur le site du ministère, de l'économie,
du gouvernement,
des finances, avec tout un détail sur le projet de loi, sur les mesures clés, des résumés et tout le parcours qu'il fait au débat entre le Sénat et l'Assemblée nationale et la mise au débat public de ce soir. Voilà. Mais j'en ai pas vu trace ailleurs. Si ce n'est au travers du rapport qui a été demandé par le ministère à Philippe Frémaux pour étayer ce projet de loi. Alors, ce rapport, il est tout à fait intéressant. Il fait une quarantaine de pages. On peut y accéder. Mais il n'est pas... On peut y accéder, mais c'est comme toutes ces informations-là. On peut les obtenir. Mais elles ne circulent pas dans le média commun. Ils ne sont pas diffusés largement.
C'est ça le problème.
Mais puis voilà. Il faut savoir les lire aussi. Hein.
Oui, il faut savoir aller les chercher.
Mais le rôle des médias, c'est quand même bien souvent de prendre des choses qui sont assez compliquées, de les digérer et puis de les restituer au plus grand public de façon effectivement bien à amener une réflexion possible de la part de gens qui ne sont pas spécialistes. Quoi.
Mais ça n'intéresse personne d'éduquer les gens. Il n'y a qu'à voir comment on traite l'éducation actuellement.
Le problème est aussi un manque de mobilisation citoyenne. Je veux dire, partant de l'exemple des coopérateurs ou des mutualistes, combien d'entre nous appartiennent à des mutuelles ou des coopératives et reçoivent les convocations aux assemblées générales et renvoient ou pas le pouvoir, mais on ne se déplace jamais. On a tout ça. Je veux dire,
c'est le début de la dérive.
C'est vrai, voilà. On a tous cette flémardise-là.
C'est pas de la tarte quand même, bien.
Mais non, exactement.
Ça, c'est clair. C'est pas de la tarte,
Alors déjà, on va faire quelque chose de concret. On va faire circuler le lien de votre association.
Yes.
Ceux qui sont ici ce soir peuvent réfléchir s'ils veulent faire le pas de devenir
coopérateur.
Et de notre côté, on va jeter un coup d'œil critique. Est-ce que le TAFTA menace l'économie et dans quelle mesure? On va demander à Raoul Marc Génard qui va nous sortir. On va faire circuler ça aussi après sur la liste. Comme ça, l'information prend un peu d'ampleur.
Et Joël, tu as cité pour. Pardon.
Oui.
Moi, je crois que par rapport à TAFTA, l'important, ça serait de mobiliser nos élus.
Ça a déjà été fait au Conseil régional.
Il y a des régions qui sont quand même arrivées à se positionner.
Oui, ouais. Chez nous, ça a été fait.
Chez nous, on n'y est pas encore. Hein.
Non, ça a été refusé.
Ça a été refusé au vote du 23.
Oui,
23 ou 26.
Oui, mais le 26, finalement, ils ont voté quoi?
Oui. Ils ont voté une minorité. Une minorité de 23 voix, je crois, et 40 contre. Donc,
les élus régionaux, quand tu dis « ils », c'est « ils » qui?
Les élus du conseil régional en plénière du 26. En plénière du 26.
Et le comité.
L'Île-de-France s'est opposée par un même vote au TAFTA. L'Île-de-France. Et le conseil régional Midi-Pyrénées, non. Tout va très bien.
Mais ça n'empêche pas de voir au niveau des communes, les conseils généraux.
Oui, le conseil général. Je crois que le conseil général du Tarn. Le conseil général du Tarn.
Au niveau du conseil général. C'est pas du conseil.
Je crois qu'on a parlé du financement tout à l'heure possible de l'économie sociale et solidaire. Donc, lancer des entreprises et ensuite elles rentrent dans le système marchand et dans le système lucratif, on va dire. Mais au départ, par un système solidaire de financement, là, c'est ce dont vous parliez. Et donc, il y a l'IES là, dont vous parlez, il y a aussi l'ADI. On avait prévu. Dans notre soirée ici d'avoir deux volets, le volet économie sociale et solidaire et financement de l'économie sociale et solidaire. Et pour des raisons de date, on n'a pas pu faire que ça puisse être fait le dernier jeudi du mois et ni le premier jeudi du mois finalement, puisqu'on a décidé au niveau des jeudis en question de maintenir quand même le thème mais de n'en faire qu'une partie. Et cette partie-là, donc, Pierre a bien voulu l'assumer, c'était sur l'économie sociale et solidaire. La partie financement, si jamais ça intéresse des personnes, on est capable, puisque on avait Rémi Camas qui vient de partir, là, mais qui est bénévole à l'ADI, On avoue ici pour l'IES, et Pierre peut-être aussi, je pense, ou ta femme. Et donc, ce sont deux organismes qui travaillent dans ce secteur-là, et on est capable d'organiser un jeudi en question ultérieur, à programmer soit au dernier trimestre, soit au premier trimestre de l'année prochaine. Et pour voir le concret des possibilités offertes par cette économie, quoi. Et le concret, c'est effectivement à partir du moment où il y a des financements.
Voilà. Bon, Pierre, tu disais Capcoop, là. Est-ce que c'est Capcoop, bon, c'est une association, tu vois ?
Non, c'est une coopérative.
Coopérative. Est-ce que c'est vers Capcoop qu'on pourrait orienter des gens, des futurs entrepreneurs, qui veulent faire quelque chose ? Est-ce que c'est via cette structure qui serait la porteuse de projet pour eux, pour les aider ?
Tout à fait. À différents niveaux. Un premier niveau pour les aider à travailler le projet.
À le finaliser.
Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui est que le porteur de projet peut devenir entrepreneur salarié pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il est salarié de Capcoop, mais pour son propre projet, pour voir si son projet est viable, etc., sans prendre de risques. Et si jamais il se casse la gueule, comme il était salarié, il ne perd pas ses droits de salarié. Si ça marche bien, au bout de 2 ans, il sort et il peut, tout en restant dans Capcoop, être dans un système de coopérative d'entrepreneurs. Donc il y a 3 niveaux dans Capcoop. Il y a aussi qui fait ça. Alors dans l'Aveyron, qui fasse les 3 niveaux, il n'y a que Capcoop. Sinon, pour qui aide la création d'entreprise, il y a aussi les créer boutiques de gestion qui fait ça. Sinon, après, il y a la CCI ou la Chambre des métiers.
Oui, mais ceux-là, on les considère plus que Chambre des métiers, on les considère plus comme allant vers le... vers le lucratif. Mais à tort, peut-être. Hein. Quand on parle de ces gens-là, moi, je vois tout de suite le requin. Mais j'ai peut-être tort. Hein.
C'est Capcoop, c'est pareil.
Mais Capcoop, c'est
pareil. Il y a quand même un état d'esprit à Capcoop et une éthique qui est quand même différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs.
Oui, mais une fois que l'entreprise est créée, qu'elle fonctionne,
elle appartient à ses créateurs. C'est clair.
Voilà. Oui. Non, mais
donc,
tout à fait.
C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un bouche-trou par rapport à une possibilité de...
Il peut rester dans le cadre,
mais ça
dépend de la coopérative.
C'est la volonté de...
Alors, si elle reste dans le cadre de la coopérative qui se développe, on a dit tout à l'heure qu'au-delà d'un certain nombre, c'est ce que c'est la figure.
C'est pas pour de grosses structures, de toute façon, c'est pas adapté à ça, donc c'est clair.
C'est plus, voilà, alors peut-être que ce serait
bien. Non, mais attendez, le premier employeur de France, c'est l'artisanat. Hein.
Elle se cantonne à un groupe relativement restreint de personnes dans le cadre d'une économie solidaire, autrement, c'est pas possible.
Non, mais je crois que c'est pas, comment dire, c'est pas opposable de la part d'un porteur de projet, d'aller voir la Chambre des métiers ou d'aller voir la CCI pour s'informer de comment il va fonctionner, comment il va avoir... Et puis de rechercher des financements en ayant en tête que ce qu'il veut créer, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, il veut associer quelqu'un dans son projet, il envisage que s'il a des salariés, ils seront associés à la marche de l'entreprise, ils auront un salaire qui est de 1 à 3 au maximum. Enfin, il y a tout un ensemble de règles qui... Pour moi, c'est pas antinomique. Il faut bien qu'à un moment donné, le porteur de projet, il va chercher l'information pour créer son entreprise là où l'information existe. Après, il y a le problème du financement. Et en général, c'est là où ça bute. Parce que quand le porteur de projet n'a pas de financement propre suffisant, les banques lui claquent la porte. Hein, ils ne veulent pas entendre. Et nous, en tant qu'initiative pour une économie solidaire, quand ils viennent nous voir, on étudie le projet. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sert de levier. C'est-à-dire, le gars, il peut retourner voir le Crédit Agricole, l'URSCOP, le Crédit Mutuel ou le Crédit Occitan. Et puis, il dit, ben voilà, moi j'ai... Il n'est pas forcé de dire que c'est nous, Mais il dit, moi j'ai 30 000 euros pour démarrer, et qu'est-ce que vous pouvez me financer dans mon projet ? C'est ça le but. C'est ça.
Dans les choix que vous faites, dans les choix qui, de vos porteurs de projet, est-ce que vous intégrez des choses comme cette éthique ?
Oui, bien sûr, absolument.
C'est-à-dire que, après tout, vous êtes capital risqueur, donc c'est facile. Je peux venir chez vous pour gagner de l'argent.
Capital risqueur solidaire.
Solidaire. Mais à quel moment je suis solidaire de vous ? J'ai pas très bien compris. Quand vous choisissez vos projets, à quel moment le porteur de projet s'intègre dans votre éthique ? Après tout, peut partir après et puis faire, comme vous disiez, de l'économie normale.
On regarde le projet, c'est lui qui l'a. Donc on va essayer de regarder la qualité de son projet. Qu'est-ce que ça a d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il apporte d'intéressant si
c'est...
Est-ce qu'il est viable ?
Parce que j'ai bien compris.
Il faut qu'il marche.
Oui, j'ai pas
il y a des règles éthiques.
Voilà, ma question était sur l'éthique. Ouais, parce que la viabilité, j'imagine que vous faites votre travail, vous allez bien évidemment. Mais après, comment savez-vous que moi qui viens avec mon projet, s'il est viable, je vais adhérer à votre éthique et à quel moment je vous renvoie l'ascenseur si vous voulez ?
Moi je vais vous dire, il y a un questionnaire à remplir au départ sur 5 critères. Hein, alors je les ai tous en tête, mais il y a la gouvernance, il y a
en quoi le projet respecte l'environnement,
en quoi le projet respecte le développement durable, en quoi le projet crée des emplois non délocalisables, en quoi le projet fait appel à des j'ai plus en tête exactement les, ça c'est le premier point. Le deuxième point, à ce moment-là, nous, on regarde si c'est éligible par rapport à ces critères.
Mais ces critères sont contractuels, je veux dire, c'est un engagement que prend le porteur.
Bien sûr. Ah oui. Si vous voulez, on étudie le dossier. En général, ça prend entre 4 et 6 mois, parfois 8 mois. Alors là, c'est un va-et-vient entre lui et les instructeurs. Il y a deux instructeurs qui sont désignés. Il y a un va-et-vient permanent à ce moment-là. Et quand le projet est mûr, à ce moment-là, on le dépose à Ramonville-Saint-Agne, puisque le siège d'IUS est à Ramonville, et là, ça passe en comité d'engagement. Et dans un comité d'engagement, il y a les instructeurs défendent le projet, le porteur de projet n'y est pas. C'est les instructeurs qui défendent le projet devant le comité d'engagement. Et si le comité d'engagement dit « Ok, on monte au capital 6 000 euros et on fait un compte courant d'associés de 20 000 euros », à ce moment-là, il y a une convention qui est signée avec le porteur de projet, et cette convention stipule donc le montant qu'on lui apporte en capital, en compte courant d'associés ou en prêt participatif. Bon. Et puis, surtout, il est stipulé que tous les trimestres, on a une réunion avec le porteur de projet pour voir si... Alors, c'est des plannings sur 3 ans, hein, avec chaque année rapportée, et il est tenu en fin d'exercice, de donner un bilan et de faire une assemblée générale à laquelle on est partenaire et on y assiste. Non, Pierre peut encore bien avec en parler parce qu'il est accompagnateur et moi je suis aussi accompagnateur de deux projets.
Et avec une surveillance de ces 5 critères dont
vous parlez. Oui. Si jamais par convention il s'engage à respecter ces critères, si jamais ils sortent des critères,
il rembourse.
Nous on demande à sortir et à ce qu'ils nous remboursent. On a un exemple précis en tête qui s'est passé comme ça. C'était une société qui avait créé le lavage de voitures sans eau.
Oui.
Ça marche très très bien.
Très bien.
Et résultat des courses, c'est que la petite entreprise qui s'était créée a été rachetée par un groupe. Le groupe, pour nous, ne répondait pas du tout aux critères de l'économie sociale et solidaire. Donc on a exigé qu'ils sortent, qu'ils remboursent le... Après, il faut ce qu'il veut.
Une dernière précision, c'est que dans la convention, il est stipulé que IES accompagne pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, si l'entreprise n'en a plus besoin, ça arrive qu'on prolonge, hein, mais si l'entreprise n'en a plus besoin, nous récupérons le capital, nous récupérons, ça a été remboursé, le compte courant d'associés ou les prêts participatifs, et on demande à ce moment-là aux porteurs de projet de devenir lui-même adhérent à IES et d'y mettre des billes.
Mais c'est simplement une demande, je veux dire, contractuellement, il n'est pas tenu de renvoyer l'ascenseur.
Non, ça, il n'est pas tenu.
Non.
C'est voilà, vrai. Il faudrait le rendre obligatoire.
Oui, non, mais vous...
Eh oui.
Il y a ça, pas
ça se fera peut-être, mais ça, c'est pas.
Mais non, mais il faut être logique. Hein. On apporte une aide.
Oui, mais vous avez raison.
Et puis, la contrepartie, c'est que, effectivement, elle n'est pas que financière, elle est aussi éthique. C'est tout. Et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, ça n'a pas été institué.
Ça, n'a pas été, ça se pratique au couramment, mais ça n'est pas obligatoire.
Voilà. Mais ça se pratique couramment.
Non, mais je ne veux pas dire que tous les gens font de mauvaise foi.
Non.
Évidemment. Mais je veux dire que, quelque part, on ne manquerait pas de garantie à partir de ce moment-là. Et ça permettrait peut-être d'avoir le relais dont vous parliez. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous disiez qu'il faudrait qu'il intègre l'IES. D'accord, mais si c'était contractualisé, ce serait obligatoire.
Oui. Oui,
c'est et ça développerait l'IES.
Oui.
Et vous manquez à votre devoir si vous le faites pas.
C'est le côté solidaire qui, à ce moment-là, serait manifesté par celui qui est venu chercher la solidarité.
Mais on est bien d'accord.
C'est vrai.
Voilà.
C'est
on est
vrai.
Bien d'accord.
C'est
vrai. Mais on peut vous dire, Pierre, oui. Il y a combien 80% des gens, des porteurs de projets qui le font.
Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est vrai que
tous ne le font pas.
Et que c'est pas, sur le principe, c'est pas obligatoire.
Bon, il y a aussi parfois où on sort et l'entreprise, elle aurait peut-être pas les moyens d'y mettre beaucoup de sous non plus. Hein,
mais symboliquement.
Bien sûr.
C'est à 16 euros.
Mais l'exemple de ce truc du type qui lave les voitures sans eau, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je sais pas comment ça marche. Mais
ça marche très bien.
Je trouve que c'est pas bulle. Mais qu'on ne met pas. Qu'on ne lui a pas demandé de renvoyer l'ascenseur.
Il a été racheté par un groupe.
Oui, c'est pas que c'est laissé racheter. Il est vénal si c'est laissé racheter. Enfin, je ne comprends pas.
Mais
oui,
mais
le monde n'est pas parfait.
Non, c'est sûr que quand on commence à instruire un dossier, on n'est jamais certain qu'au bout de 5 ans, les choses n'auront pas changé. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait partie de la vie. C'est... Bon, il y a aussi une part de confiance. On travaille en confiance avec les gens. On s'aperçoit à certains moments qu'il y a des dérives, donc on allume des clignotants au cours des réunions trimestrielles en disant « Attention, là, vous faites de la gouvernance qui ne nous paraît pas très correcte. » Bon, mais on n'a pas les moyens de se substituer aux porteurs de projets. Et ce n'est pas notre objectif. De même que IES ne prend jamais plus de 20... prend toujours moins de 25% du capital. On ne veut pas avoir une minorité de blocage. Ça, c'est un principe de base d'IES. Ce n'est pas nous qui gérons l'entreprise. Nous sommes là pour aider les porteurs de projets, les accompagner.
Bien sûr.
C'est très intéressant.
Non, j'en doute pas.
C'est passionnant.
Je trouve qu'il manque un pied à votre projet.
Le troisième.
Moi, suggérer.
Le troisième, évidemment.
Voilà.
Moi, je voulais parler d'une dernière chose. J'ai regretté de ne pas mettre sur le petit papier de Enercoop, qui est une coopérative fournisseur d'énergie. Et je pense que c'est chaque démarche individuelle qui font que les coopératives peuvent marcher. Enfin, moi, c'est vraiment c'est la base. Enercoop, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fournisseur d'électricité comme Poweo, comme GDF, comme ERDF, qui s'engage à vous fournir de l'électricité qui n'est pas d'origine nucléaire. C'est que du renouvelable, hydraulique, éolien, photovoltaïque, etc. Voilà. C'est pas grand-chose. C'est d'un clic, de deux clics, vous pouvez adhérer à Enercoop. Voilà. Le kilowattheure est très légèrement plus cher que EDF. Mais EDF, c'est pas le vrai prix si on compte pour le traitement des déchets, etc. On en saura plus le 27 septembre, à la journée des énergies renouvelables. Il y aura un stand de Enercoop. C'est pareil, c'est pas grand-chose. Mais l'intérêt d'Enercoop, c'est déjà qu'ils fournissent de l'électricité qui n'est pas nucléaire. Et après, ils mettent en place des coopératives pour une éolienne. Ça, la source, il y a de gros projets d'éoliennes sur ça, la source. Plutôt que se battre contre des grosses éoliennes, les habitants de ça, la source, dont je fais partie, pourraient initier une petite coopérative et monter trois éoliennes qui appartiennent aux habitants de ça, la source. Un projet coopératif. Ils mettent des projets coopératifs de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydraulique, donc énormément. Ils sont en train de. Voilà, je trouve que c'est très intéressant ce genre de coopérative. C'était une.
Est-ce que il y a d'autres questions?
Oui, moi je veux savoir comment on peut avoir des informations sur.
Pierre va tout vous donner. Et vous pouvez aller sur le site internet ies.com.
Oui, d'accord.
Et là, vous pouvez... C'est national ou simplement
non, régional. C'est Midi-Pyrénées.
Midi-Pyrénées. Mais nous sommes en train
il y a d'autres sites
d'essayer sur Languedoc-Roussillon.
Mais ah, c'est ça.
La future nous sommes précurseurs. Nous sommes précurseurs. Non, non, sérieux. Il y a un groupe de 14 là, qui a démarré.
Il y a
un groupe de 14 coopérateurs qui, sur Montpellier, Lodève... Et dont trois à l'origine viennent de l'Aveyron.
Ils ont déménagé. C'est juste la sortie. Ah.
Voilà, ouais. Non, 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 mais.
Bon, mais.
Merci
à Pierre de s'être dévoué une réunion de plus.
Est-ce qu'il faut ranger?